Curriculum Vitae.
Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Curriculum Vitae, c'est Danny Benz au microphone. Aujourd'hui, je rencontre un homme de foi, un homme qui a grandi en Bretagne, passant ses étés au gré des marées de l'Atlantique. Sa participation aux Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997 a complètement changé sa vie, le menant au sacerdoce plutôt qu'ingénieur chimiste. Prêtre de la communauté de l'Emmanuel, après plusieurs années de ministère dans deux églises à Paris, il fut recteur du sanctuaire du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial pendant 8 années. Il est actuellement curé de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin à Québec et délégué du responsable de la communauté de l'Emmanuel pour l'Amérique du Nord. Père Benoît Guédas, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Bon.
Dans la joie pascale.
Oui, certainement. Alors, vous êtes né à Vannes, c'est au sud-ouest de la Bretagne, une belle ville fortifiée.
Oui, une ville bimillénaire.
Oui.
Même plus, avant Jésus-Christ, Gwynedd, Vannes existait déjà, avec une belle fortification du Moyen-Âge, vraiment très belle ville, oui.
Dans une famille de 3 enfants, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter la famille Guédas?
Oui, deux parents qui ont grandi dans la campagne de Bretagne, puis qui se sont mariés assez jeunes. Maman a dû demander l'autorisation de sa mère, parce qu'à l'époque, on était majeur à 21 ans. Donc elle l'a demandé à 18 ans, pouvoir se marier. Et puis, ils ont eu 3 enfants, mon frère aîné, Antoine, puis moi-même, Benoît, et ma petite sœur, Camille, qui est arrivée après... voilà, 4, 5, 7, 7 ans après moi, ABC, Antoine,
oui.
Benoît, Camille.
Oui, c'est original. Et c'était une famille où régnait quelle ambiance?
C'est une ambiance, j'ai envie de dire tranquille. Il y avait la place pour le sport, mon père aimait le football, mon frère aîné était un footballeur aussi. J'étais un peu la déception de la famille, j'ai fait du basketball pendant plusieurs années. Bon, en fait, j'ai une taille qui me facilite aussi. Et puis, ma petite sœur qui est arrivée, comme un beau cadeau, là, d'avoir une sœur. Je pense que tout le monde était content d'avoir une fille et une sœur, et qui a mis de la joie dans notre famille, oui.
Oui. Et dans votre famille, il y avait aussi une grand-mère qui a été importante pour vous.
Oui, enfin, ils ont tous été importants, mais ma grand-mère, elle a vécu jusqu'à ses 103 ans. Alors, j'ai eu l'occasion de la connaître davantage. Mes grands-pères étaient décédés avant que je naisse. Et puis, mon autre grand-mère, je l'ai connue 10 années, mais ma grand-mère maternelle, Suzanne, a été une place importante. Oui, c'était une grande figure humaine, une figure de foi aussi, puisque c'est elle qui me conduisait à la messe des fois quand j'allais en vacances chez elle. Je me souviens très bien de ces moments-là. Et donc, une très belle figure jusqu'à la fin de sa vie, une figure... d'une grande dignité jusqu'à ces derniers jours, qui a eu la chance de pouvoir... chance, mais c'est aussi la force de son caractère de tenir bon.
Oui. Vous dites que c'est le tempérament breton. Qu'est-ce que c'est, le tempérament breton?
Des gens qui savent ce qu'ils veulent.
Oui.
Nous, on dit souvent la tête dure. Ils ont la tête dure, les Bretons, le granit breton. Vous savez, du granit en Bretagne, c'est une pierre qui est très, très dure. C'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, oui. Je pense que je dirais ça comme ça. Positivement, c'est assez positif d'avoir des gens qui savent ce qu'ils veulent.
Oui, oui. Et l'histoire, parce que vous parlez de votre grand-mère qui a vécu quand même plus d'un siècle, c'est très important pour vous, l'histoire. Et très jeune, vous vous êtes intéressé à la Seconde Guerre mondiale, qui bien sûr a eu un impact dans toute l'Europe, même
oui.
Ici. Pourquoi ça vous a intéressé?
Je pense que c'était un moment, un tournant dans l'histoire de notre pays, un drame immense, puis quelque chose qui restait d'assez mystérieux, en fait, et qui était assez proche de moi. Je suis né en 77, donc ma grand-mère, elle l'a vécu, et elle l'a vécu même dans les silences où elle ne nous disait pas trop ce qui s'est passé. De temps en temps, elle a glissé des mots de ce que des voisins ont vécu et tout ça. Donc c'était assez à la fois terrible, mais à la fois, voilà, c'était très proche. Et dans mon enfance, dans les écoles, souvent venaient des témoins de la Shoah ou des témoins de la guerre qui venaient nous partager comment ça s'était vécu. Donc c'est sûr que ça a marqué. Et puis moi, je viens de Bretagne, et en Bretagne, il y a le marquis de Saint-Marcel, il y a des lieux très forts où la résistance aussi a agi. Donc ça m'a façonné. Puis ça, c'est une période qui m'a attiré, en fait, de voir ces figures... héroïques, en fait, hein, pas forcément connus, mais qui, dans le silence du quotidien, dans leur fidélité, dans ceux qui ont été emprisonnés ou d'autres, ont traversé ces années, voilà, et puis des grands films comme La Grande Évasion, comme Le Jour le plus long, qui ont pu aussi marquer ma jeunesse.
Le Jour le plus long, qui raconte l'histoire du débarquement.
Du débarquement en Normandie, donc pas très loin de chez moi, on est à 300 km, moins de 300 km.
Oui, comme le soldat Ryan, peut-être aussi.
Alors ça, beaucoup plus tard, oui. Parce que là, c'était dans les années 2000. Hein, mais oui, c'est tous ces films de guerre m'ont toujours un peu marqué. J'ai souvent été chercher aussi un peu, creuser un peu ces périodes-là. Plus récemment, de mieux comprendre aussi la partie pacifique. Parce que nous, forcément, comme on est en Bretagne, le débarquement, c'est quand même... Le débarquement en Normandie, c'est quand même le lieu phare. Mais d'avoir l'autre pôle, un peu aussi asiatique, Amérique, Asie, c'était aussi intéressant d'approfondir ces aspects-là.
Et la foi et la pratique religieuse, c'était déjà bien présent dans votre jeunesse.
En fait, c'est assez étonnant parce que on n'a jamais prié en famille, on pourrait dire ça. Mais j'allais à la messe avec ma maman. Maman travaillait de nuit à l'hôpital. Et le dimanche matin, on allait à la messe quand j'étais enfant. Et puis mon père, il vivait sa foi quand il voulait. Mais très vite, je suis devenu servant d'hôtel et j'étais le seul à aller à la messe. Maman n'allait plus à la messe, mais j'allais, je sortais la maison. Maman, j'étais enfant de cœur, donc... Maman m'invitait à y aller et j'avais pris un engagement, donc j'ai dit, elle m'encourage à tenir mon engagement. Mais en même temps, voilà, j'étais le seul un peu à pratiquer ma foi, mais c'est sûr que c'est dans ce lieu-là que beaucoup de choses ont germé, dans cette église-là, l'église de mon enfance, de mon baptême.
Je suis toujours en compagnie du père Benoît Guédas, curé de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin et modérateur de la paroisse Dina Bélanger à Québec.
Oui.
Et vous allez nous parler de ce choix, c'est du Mozart qu'on vient d'entendre.
Le Requiem de Mozart, l'introit, le début de cette œuvre incomplète mais magnifique qui m'a... Oui, je pense que c'est une des premières œuvres classiques qui m'a touché. En fait, j'aime beaucoup chanter. Et puis, à travers le collège en France, c'est-à-dire le début du secondaire, il y a eu cette découverte de la musique, du chant, et puis et cette pièce qui m'a beaucoup touché. Il y a d'autres morceaux, Saint-Saëns, Danse macabre, la Symphonie du Nouveau Monde et d'autres. Mais cette pièce-là, ça m'a tellement touché que j'ai acheté la partition pour pouvoir chanter et mieux suivre les notes. Et alors, je suis pas musicien, donc je sais pas lire une partition, mais quand même, je vois que ça monte et ça descend. Et en écoutant, de pouvoir prier, ou plutôt en tout cas même de pouvoir chanter simplement ce Requiem, c'est une pièce qui m'a beaucoup touché dans ma jeunesse.
Oui.
J'ai aimé écouter. Et qu'en réécoutant, d'ailleurs, ça renvoie aussi dans des souvenirs très beaux.
Et comme soutien aussi, dans votre parcours de foi, il y avait justement le curé de la paroisse chez vous.
Oui, le père Morol, père Bernard Morol. Ça a été ce curé, un long curé. À l'époque, on restait plus de 20 ans curé de paroisse dans cette ville de Vannes, dans l'église Saint-Paterne. Et c'est lui qui m'a appelé quand j'étais, en troisième secondaire, si je prends l'équivalence ici. J'étais servant d'hôtel à la messe le dimanche, je servais la messe d'un vieux chanoine. Et puis à un moment, il a décidé de faire un groupe de jeunes garçons. Là, on se rassemblait tous les 15 jours pour prier un peu au presbytère. Et il m'a dit, est-ce que tu veux en faire partie ? C'était une année où on est à un moment de l'adolescence, où on se demande si on va continuer ou pas. Puis un copain me dit, moi je crois que je vais arrêter de servir. Moi je me posais la question, et puis pof, à ce moment-là il me pose cette question. Et on se retrouve avec 7 autres garçons au début, puis petit à petit à 15, une quinzaine de gars. Et c'est là avec lui que j'ai beaucoup appris. On se retrouvait pour prier, on faisait des retraites dans les communautés monastiques pendant les vacances scolaires, qui sont beaucoup plus nombreuses en France qu'à Québec. Et puis, c'est lui qui nous a invités à aller à Paray-le-Monial découvrir les sessions. Voilà. C'était un beau curé, une belle figure de prêtre. Il avait 60, 70 ans. Il était déjà à la fin de sa carrière, mais c'était un vrai prêtre. Je ne sais pas comment le dire, mais beau, quoi.
Bien incarné.
Oui, bien. Et puis même, en même temps, assez clair, assez carré dans sa manière d'être. Mais en même temps, très, très beau. C'est-à-dire, il savait nous reprendre quand on faisait des bêtises, quoi. Mais en même temps, on voyait qu'il avait une vraie joie à nous accompagner.
Oui. Votre ouverture sur le monde a commencé également quand vous étiez jeune. Vous avez voyagé en Irlande. Vous avez fait un séjour d'immersion à Saskatchewan, un autre aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir de ces voyages?
Alors, d'abord, c'est un beau cadeau que mes parents m'ont donné, de pouvoir partir comme ça pendant un mois aux États-Unis, au Saskatchewan. Vous savez, quand on est jeune et qu'on voit l'autre côté de l'Atlantique, on voit les grandes étendues. Et Saskatchewan, moi, ce que je me souviendrai, c'est ces grandes rues droites, ces grandes avenues, là, tournées dans 150 km à droite. Vous voyez, c'est tout droit pendant des kilomètres dans les prairies. Là, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner encore, mais c'était très beau. Et puis, un autre mode de vie, ce qui m'a choqué, par exemple, vraiment, c'est un vrai mot choqué, c'est que, je suis de Bretagne, mais en rentrant de ce voyage du Saskatchewan, j'étais avec une autre personne qui avait vécu ça, une insertion aussi d'un mois. On est arrivé dans le métro parisien, tout le monde courait à côté de nous et nous, on avait appris pendant un mois à prendre le temps de vivre, à pas aller trop vite, à saluer les gens quand on les croise en voiture. Vous voyez, on roule pas vite, quoi. On prend le temps d'être avec les gens et ça, c'était super. Donc ça, je retiens ça notamment, voilà.
Ouais.
Avec l'Amérique, avec la famille en Idaho, c'était différent parce que c'était une famille mormone. Donc je me suis retrouvé un mois vraiment d'une autre approche aussi de la foi. J'avais 16 ans, là. Et avec un beau respect, il me dit, non, t'es catholique, on va respecter ta foi catholique. Et moi, j'ai découvert aussi leur vie de mormon, toute simple, mais là, j'avais plutôt une jeune adolescente, donc c'était vraiment l'ambiance jeune, 16 ans, vous voyez, où on a déjà son permis de conduire et on peut déjà prendre l'air et aller un peu sur la route. Ça, pour moi, qui ne peut pas conduire avant 18 ans, c'était nouveau et puis c'était assez... C'était l'évasion, quoi.
C'était l'idée d'apprendre l'anglais aussi.
L'objectif de mes parents, c'est de dire insertion pendant un mois pour faire de l'anglais. Je me sens pas le meilleur en anglais, mais parce que je suis passé 2 ans en Amérique latine, on va y revenir. L'anglais est passé un peu derrière. Mais oui, c'était pour ça au départ.
Oui. Et en 1997 arrivent les JMJ qui se sont déroulés à Paris. Vous en étiez. De cette rencontre internationale, les observateurs ont dit qu'il y avait eu des effets notables par après pour l'Église en France, avec les jeunes qui se sont réinvestis, il y a eu un retour à l'identité catholique. Qu'est-ce que ça a été pour vous, Benoît Guédas?
Pour moi, c'était le tournant, c'est-à-dire que j'avais déjà, en allant régulièrement à Paray-le-Monial l'été avec ma fraternité de jeunes, avec ce prêtre, fait cette rencontre de Jésus. Vraiment, il y a eu un changement dans ma vie à 16 ans, à 15 ans, c'est que j'ai découvert que l'Eucharistie, c'était pas un symbole, que Jésus était vraiment présent dans l'Eucharistie, même si j'avais une foi, pour moi, Dieu restait en haut des nuages, et là, il devenait présent. Et puis, face à l'amour de Dieu que j'ai découvert dans le message du Sacré-Cœur, j'ai compris son amour pour moi, j'ai voulu l'aimer. Mais en fait, les JMJ, c'est le lieu où il m'a appelé. C'est le lieu où, au milieu de ces grandes célébrations, au milieu d'une figure de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était notre guide avant d'arriver à Paris, on était passé par Lisieux. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Le désir de me donner était là et qu'à un moment, j'ai dit oui.
Vous étiez accepté à cette école d'ingénieur en sciences, là?
Oui, j'ai passé 2 ans à passer des heures et des heures à travailler mes exos, à faire que ça, parce que c'est les écoles de préparation aux grandes écoles, c'est deux belles années, mais on le sait que quand on est parti, parce qu'on fait que des cours. Et donc, j'ai travaillé pour cette école. D'ailleurs, c'était la remarque de mon frère, qui a pas forcément la foi et qui me dit, mais ça fait 2 ans que tu nous saoules d'une certaine manière pour avoir cette école, tu l'as et t'y vas pas, on comprend pas quoi. Donc, oui, c'est assez choquant. En plus, j'étais à Toulouse. Toulouse, c'est la ville du soleil. Alors, c'était waouh, c'était super. Et puis, tu pars en Belgique. Là, non. Pour moi, c'est une preuve de l'existence de Dieu, d'avoir renoncé à Toulouse pour aller en Belgique. Vous voyez, rien qu'au niveau climat, on se dit là, il y a dû y avoir quelque chose. Parce que ça peut pas être juste pour le goût de la Belgique qu'on a à Toulouse. Je suis jamais allé, du coup, à Toulouse. J'irais bien, peut-être, un de ces quatre, mais voilà.
Bon, moi, je suis né en Belgique, mais bon.
Ah, pardon, Denis. Mais voyez, entre Toulouse et la Belgique, c'est pas le même climat.
Et c'est toujours mon rêve d'aller voir le sud de la France, parce qu'à cause de la météo, évidemment. Alors donc, vous avez décidé que vous alliez suivre cet appel à la vie sacerdotale. Vous avez parlé de la réaction de votre frère. Qu'est-ce que votre mère en a dit?
Ma mère, elle a pleuré. Parce que mon père était décédé 1 an avant. Donc, premier deuil. 1 an plus tard, son fils lui dit « Je renonce à mon école d'ingénieur pour aller vers un endroit où... » Puis cette communauté d'Emmanuel, c'est quoi en fait? C'est une secte, c'est quoi? C'est dans l'église? Et puis quand je lui dis « Mais tu sais François, un copain de mon groupe de jeunes, il est rentré l'année dernière au monastère, ça te dérangeait pas ?» Il dit « Non mais François, c'est pas mon fils !» Donc pour une mère, c'est sûr qu'on désire sûrement la même joie qu'elle a eue, d'avoir des enfants et tout ça pour son fils. Donc ça a été un vrai deuil, une vraie épreuve, mais une épreuve bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de confronter ce que j'avais vécu au JMJ à la réalité. Au fond, est-ce que c'est juste dans l'ambiance des JMJ que je veux être prêtre? Alors, en fait, c'est quelque chose que je portais dans mon cœur depuis un moment. Ou est-ce que c'est vraiment l'appel de Dieu? Et c'est vrai que là, j'étais mon père spirituel, le curé, Bernard Morol, il a été un bon secours parce qu'à un moment, il me disait rien. Je dis, mais vous me dites rien parce que c'est pas ça. Il me dit, non, je dis rien parce que c'est à toi de décider, c'est pas à moi. Vous voyez, un père spirituel, c'est pas lui qui, il est pas là pour prendre nos décisions. Il m'a éduqué à cette liberté de dire, c'est toi qui décides. Tu feras un bon père de famille, tu feras un bon mari. Enfin, j'espère, j'en sais rien, on le saura pas parce que je le suis pas, mais, voilà, le choix, il est à toi. Et c'était important que ce soit mon choix, parce qu'après, je dois assumer mon choix. Donc, c'est très fort, parce qu'il y a des moments, vous savez, Dieu ne nous parle pas trop, mais là, c'était très clair. J'avais l'image du jeune homme riche, où on dit, va, il vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et moi, ce que j'avais, c'était mon école d'ingénieur. C'était mon trésor. Et je lui ai dit, et je vois qu'il s'en allait tristement. Alors, j'ai dit au bon Dieu, s'il y a un truc qui est clair, c'est que je ne veux pas partir triste. Et à un moment, j'ai fait le choix, même si ma mère pleurait, de dire, ok, Seigneur, je lâche tout, je te suis. Et puis, voilà, on est parti.
Solo contigo abro mis alas. El corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo
no se torna posible, es posible el mañana. Solo contigo las horas pasan y es un motivo para darte hasta el alma. Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido. Y no hay espacios vacíos,
digo que no,
entre tu cuerpo y el mío. Todo es conocido. Y es que solo contigo yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido. Y no hay espacios vacíos,
digo que no,
entre tu cuerpo y el mío. Todo es conocido, entre tu cuerpo y el mío.
Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Galilée et je suis toujours en compagnie du père Benoît Guédas qui nous propose ce deuxième choix musical qui est un petit peu éloigné de Mozart quand même.
Ah, c'est pas du tout la même chose là. On a changé d'époque, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas Mozart. Je continue à aimer Mozart, mais j'ai découvert une autre culture aussi.
Oui. Vous avez choisi pour quelle raison la communauté de l'Emmanuel ?
Ah ben, en fait, quand j'étais adolescent avec mon curé, là, justement, on allait à Paray-le-Monial dans les sessions internationales de jeunes, là, où on se retrouvait au milieu de 5000 jeunes. C'est là que j'ai fait cette rencontre de Dieu plus personnelle, en fait, où j'ai découvert aussi que j'étais pas le seul croyant, qu'il y en avait beaucoup. Donc, c'est sûr que j'ai baigné dans cette ambiance de la communauté de l'Emmanuel, avec les sessions d'été. Et puis, quand je quittais quand j'ai fini mon secondaire, en gros, pour passer faire mes études de préparation d'ingénieur, j'ai quitté Vannes, je suis allé à Nantes. Et dans mon école à Nantes, j'ai cherché un groupe de prière pour avancer. Et j'ai trouvé, suite à l'été que j'avais passé à Paray-le-Monial, un groupe à Nantes. Donc j'ai aussi nourri ma vie avec la communauté d'Emmanuel pendant ces 2 ans d'études. Donc assez naturellement, en fait, moi je me suis posé la question soit d'être prêtre de l'Emmanuel, soit d'être moine bénédictin, parce que c'est avec Agonan juste à côté de chez nous. Donc j'ai eu ce discernement-là dans mon cœur, mais c'est sûr que je ne me suis pas posé la question d'être prêtre diocésain. C'était très rapidement être prêtre de l'Emmanuel, et puis après j'ai découvert prêtre de l'Emmanuel, c'est d'être prêtre diocésain, parce qu'on est tous dans des diocèses.
Oui.
Alors finalement ça a été Paris, on m'a demandé d'aller me former à Paris, et j'ai choisi Paris, d'être du diocèse de Paris, parce que mon diocèse à l'origine n'était pas forcément très accueillant à la communauté de l'Emmanuel, c'était pas forcément là le lieu où je pouvais le vivre, depuis ça a changé. Et donc, ben voilà, ça s'est fait assez naturellement. C'est le lieu où j'ai découvert l'amour de Dieu, c'est le lieu où je me retrouvais aussi avec des frères laïcs qui, sans être appelés à donner leur vie, vivaient quelque chose de très fort avec Dieu et où on se retrouvait. Moi, ça m'a marqué une fois d'être avec des grands-parents que je connaissais pas beaucoup, on parle, et en fait, je me dis, mais on vit la même chose. J'ai 20 ans à cette époque-là, ils en ont 60, et en fait, j'ai l'impression que on est tout, complètement alignés, même si c'est pas du tout les mêmes vies.
Et la communauté de l'Emmanuel, elle est implantée jusque en République dominicaine, en Haïti aussi, d'où le choix musical que vous venez de nous proposer. Pour faire référence à ça, vous y êtes allé.
Oui, alors en fait, je vous ai choisi une chanson de la République dominicaine, Mili Quesada, Entre tu cuerpo y el mío, entre ton corps et le mien. Alors c'est vrai qu'après avoir dit que je rentre au séminaire, on dit mais c'est quoi cette chanson, mon père, voyons. Et en fait, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que d'abord, c'est la culture de la République dominicaine, c'est le merengue, c'est l'ambiance derrière. Enfin, vous imaginez les soirées chaudes, les gens qui dansent, les petits cafés, les bars et tout ça, la musique toujours allumée. En fait, je suis parti 2 ans avec Fidesco en coopération. République dominicaine, il n'y a pas de membre de l'Emmanuel, mais la communauté, enfin Fidesco envoie, c'est une œuvre de l'Emmanuel, envoie des coopérants là où les évêques demandent. Et moi, ben, on ne choisit pas, mais on m'a invité à aller en République dominicaine. Et là, j'ai découvert cette culture et c'est vrai que j'aime beaucoup cette chanson, mais j'aime aussi beaucoup cette chanson pour une raison spirituelle. C'est-à-dire que moi, quand je l'entends, je vois bien cette relation à Dieu. Entre le corps du Christ et moi, il n'y a pas d'espace. Le Seigneur sait tout de mon corps et je sais tout de lui, même si j'ai encore beaucoup à découvrir, vraiment. Mais entre tu cuerpo et el mío, todo es conocido. En fait, Seigneur, tu sais tout ce que je suis, tu sais ma petitesse, ma pauvreté et tout. Mais toi aussi, tu te donnes à connaître à moi. Donc moi, je trouve que forcément, c'est une chanson d'amour. Et la majorité des chansons en Amérique latine, c'est des chansons d'amour. Et même des fois, de l'amour très, on va dire, très quantique des cantiques, pour être spirituel. Mais là, pour moi aussi, je peux le relire aussi dans ma relation à Dieu, cette chanson-là. Donc voilà, j'ai vécu 2 ans en Amérique latine, en République dominicaine. Et puis, ben, il se fait effectivement qu'il y a des membres de l'Emmanuel en Haïti. Et que j'ai eu l'occasion d'aller les visiter aussi à plusieurs reprises, notamment pendant ma coopération, mais aussi après, j'ai eu l'occasion d'y retourner.
Oui, tout de suite après le séisme de 2010.
Oui, tout de suite après le séisme. J'étais vicaire en paroisse. Ma première mission, c'est la paroisse Saint-Laurent. C'était les grandes fêtes paroissiales, puisqu'on ne les fête pas pendant l'été. Saint-Laurent, c'est le 10 août. On le fêtait en janvier, et là, il y a eu le séisme. Et forcément, avec un coopérant qui était là-bas, Louis-Étienne, qui était coopérant... On s'est posé la question de soutenir nos frères et comme je connaissais la République dominicaine, ben c'était plus facile d'y aller avec eux. On est parti à 3. On a atterri à Saint-Domingue. On a, grâce à la communauté des serviteurs de Jésus souffrant, Jésus vivant, du Père Emiliano Tardif. Enfin pour moi c'est Emiliano, mais on dit Emilien Tardif ici. J'avais un pied à terre à Saint-Domingue. On a loué une voiture, on a mis plein de riz dedans et on a traversé la frontière pour aller rejoindre nos frères dans une école où. Voilà, on craignait encore des secousses et c'était une expérience très forte, oui, à la fois d'entraide communautaire, un peu comme dans Saint Paul aux Thessaloniciens qui visite ses frères et puis de voir une ferveur d'un peuple pour lequel je prie beaucoup parce qu'aujourd'hui ils souffrent encore, c'est pas un séisme mais c'est presque pire qu'un séisme ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ce qui m'a touché, c'est leur foi, c'est-à-dire que Jésus est présent et je me dis, moi, Français, tout serait écroulé à Paris, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la même foi qu'eux pour traverser cette épreuve telle qu'ils l'ont vécue. Hein. M'ont impressionné nos frères haïtiens.
C'est ainsi qu'on va se quitter pour cette première rencontre, Père Benoît Guédas. Merci beaucoup pour votre présence.
Merci.
Merci aussi à Mario Blouin qui a trouvé les musiques et à Bertolt Bernier qui est à la réalisation technique de cette émission. C'est Danny Benz au microphone et je vous dis à bientôt.
Vous venez d'entendre Curriculum Vitae.